émission quand mon passager m'a dit « Tu écoutes ça, moi je n'y comprends rien, ça m'endort. » Depuis, j'ai réfléchi à sa remarque. Et je dois reconnaître que si nous voulons que les choses changent, il va falloir que les personnes concernées comprennent ton langage. Et ce langage est aujourd'hui relativement inaudible pour une grande partie de la population. Donc il faut choisir, je pense, les gens à qui en parler, et pas en parler aux bobos gauchos, qui eux vont te comprendre, et pas aux autres. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, au revoir.
Bonjour, faut que je vous explique, j'ai pas du vague à l'âme, mais enfin on n'en est pas loin. Faut que j'apprenne à fermer ma gueule, en fait voilà, c'est ça le truc. Je suis routier, donc le soir je suis dans les restos, je discute avec mes chers collègues, et quand je vois le manque de conscience politique, je sais même pas si c'est le manque de conscience, je crois que c'est assez bizarre. Du temps de Sarkozy, je passais mon temps à entendre des mecs dire, de toute façon ça se demandait comment on a pu récupérer ce mec-là, nanana, enfin bref, personne n'avait voté pour lui. Et là, avec notre cher président Flamby, c'est pareil. Il est là depuis quoi, 3 mois, 4 mois, enfin bref, c'est-à-dire qu'il a toujours pas résolu tous les problèmes qu'on avait avant. En plus, évidemment, dès que t'écoutes RTL, etc., on va être surtaxé, enfin bref, c'est demain, c'est la misère complète. Donc, les bolcheviks sont là, etc. Et quand tu commences à discuter avec les mecs, alors moi, déjà en préambule, je leur dis toujours, je vous préviens, les gars, évitons de parler politique, parce que moi, j'ai été élevé par des parents militants communistes, et donc forcément, je suis déviant. Et ça loupe pas. En général, avant le dessert, je me prends le choix avec des mecs. Alors bon, on essaye de rester courtois, mais enfin, on est routier, quoi. Donc, on montre un peu les muscles. Mais bon, les syndicats, ça sert à rien. Il y a trop d'assistés. Enfin, c'est pas tellement que Mme Bettencourt paye pas ses impôts qui choque mes chers collègues. C'est simplement le mec qu'au RMI, tu te rends compte, c'est un scandale, etc. Donc, moi, quand je leur explique que je suis content de payer des impôts et que j'aimerais bien pouvoir en payer plus, ils me regardent comme si j'étais envoûté, quoi. Mais ma gonzesse a eu un cancer... Et pendant quelques temps, cancer du sein, enfin voilà, quoi, je serais presque tenté de dire classique. Il fut un temps où elle avait une piqûre par semaine à 1030 euros la seringue de centilitres. Et quand je leur dis ça, je dis, moi les gars, je vais aux États-Unis, ma gondesse serait morte sur le trottoir parce qu'on n'aurait pas eu les moyens de payer les 4 seringues par mois, etc., etc. Mais ça leur parle pas. Ce qu'ils voient, c'est, ouais, mais tu te rends compte, le prix du gasoil, la clope, machin. Je suis fatigué quelquefois, et voilà, c'est pour ça que je dis, il faudrait mieux que j'apprenne à fermer ma gueule, parce que vous mangez tout seul dans un coin, mais ça se verrait, quoi.
Salut Daniel, c'est le genre d'émission qui me réconcilie avec toi. Eric Osbo, comme tu l'as dit, historien du communisme, chroniqueur de jazz, mais aussi historien des bandits, car il avait écrit un livre sur le banditisme, hein, Les Bandits, qui avait été publié dans les années 70 par les éditions Maspero, les fameuses éditions Maspero, qui a été réédité, je crois, en 2008 par La Découverte. Hein. Et donc, c'est un super bouquin sur le banditisme social. Je pense qu'il faudrait que tu en parles aussi un petit peu. Voilà. Allez, salut, Daniel.
Oui, allô, je suis Marie, je suis à Toulouse, je suis chercheur. Et je suis là parce que notre patron veut nous sacrifier le site Toulousain et le site Montpellierain au profit des actionnaires, tout ça pour faire un peu plus de dividendes. Et donc nous, on est aujourd'hui là, devant le siège social, pour manifester que nous voulons conserver la recherche pour la santé des patients.
Voilà, c'était la manif des Sanofi. On va avoir quelques échos de cette manif. Vous avez vu la succession de ces deux messages que vous avez adressés, l'un disant « Ah, on ne comprend pas très bien ce que vous dites, c'est un peu trop sophistiqué ». Et puis, notre ami et camarade routier, qui a l'air de comprendre assez bien ce qui se raconte dans cette émission. On va retrouver Eric Hobsbawm, deuxième volet de cette image, de cet hommage et de cette image, si on veut aussi, au grand historien britannique qui est mort lundi dernier, à l'âge de 95 ans. Mais auparavant, on va faire un tour avec Anaël Verzo, avec les Sanofi. C'est vraiment le 14 septembre, vous vous souvenez, on était à la fête de l'humanité et on parlait des licenciements boursiers et l'urgence d'une loi contre les licenciements dans les entreprises qui sont bénéficiaires. Alors là, c'est vraiment le cas d'une Sanofi. Elle est la deuxième entreprise la plus profitable en France, avec un chiffre d'affaires de plus de 33 milliards d'euros et 8,8 milliards d'euros de bénéfices réalisés en 2011. Il y a un plan de restructuration, entre guillemets, qui est en cours et qui menace 900 emplois au moins, et beaucoup de ces emplois relèvent de la recherche et du développement. Or, un rapport de Syndex a montré que la réorganisation n'avait pour but que d'augmenter le dividende. Et en plus, d'après les chiffres prévisionnels, il est prévu une hausse du chiffre d'affaires et des bénéfices chaque année jusqu'en 2018. Et puis, il faut rappeler, c'est pas indifférent, que Sanofi a touché 540 millions d'euros au titre du crédit impôt recherche, ce qui équivaut à un chercheur sur six payé sur ces deniers publics. Voilà quelques éléments d'information. Et voilà ce que ça donnait hier dans la manif des Sanofi.
Là, on est dans la manif des salariés de Sanofi à Ventis. Il y a beaucoup de monde. Un autre panneau, innovons, licencions le patron. Licencions le patron avec un billet de banque de 500 euros. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes venu d'où pour manifester ?
En Barès, en Gironde. Il y a des gens qui sont là qui ont pu venir et il y a ceux qui ont fait grève sur les sites pour faire voir aux patrons qui sont contre ce plan de restructuration. Voilà.
C'est les termes qu'ils emploient, la restructuration, mais
oui.
C'est plan de licenciement en fait.
Voilà, c'est les licenciements boursiers, ni plus ni moins. C'est toujours pour faire plus d'argent et promettre aux actionnaires qu'ils leur donneront plus les années futures. Donc il faut que ça change, c'est pour ça qu'on est là.
Parce qu'il y a combien de postes au total qui sont menacés ? Ils sont pas très clairs là-dessus, on dit entre 500 et 2000.
Mais là déjà, les 900 qu'ils annoncent, ils comptent pas les 650 de Toulouse et les 250 de Montpellier, ce qui fait déjà 900 de plus. Donc ce matin, au comité groupe, ils annoncent presque 2000 personnes. Donc le chiffre de 900, il est faux. On est 8,8 milliards de bénéfices.
Vous travaillez là-bas depuis longtemps ?
Depuis 1997, moi. Ouais, ça fait 15 ans, donc c'est...
Merci beaucoup.
De rien.
Bonjour.
Bonjour.
Alors vous avez une pancarte là, ça nous préoccupe gravement à la santé de ces patients.
Bah oui, parce que plus ça va et plus on travaille pour les actionnaires et non pour les patients. La recherche c'est pour les patients.
Qu'est-ce que vous faites ? Vous travaillez à Sanofi ?
Oui, je travaille au service technique depuis quelques années déjà.
Sur quel secteur ?
Chez Mazars, hein, région parisienne.
Depuis combien de temps ?
30 ans.
Et votre poste est menacé ou pas encore ?
On ne sait pas. On est plutôt solidaires avec nos collègues. Et il y a un gros mouvement dans la société. Voilà, c'est pour ça qu'on est là.
Et c'est votre première manif ou vous manifestez régulièrement ?
Oui, c'est ma première.
Ah bon ?
Oui.
Et alors, qu'est-ce que ça vous fait ? Vous sentez
On est une belle société, on ne devrait pas en être là.
Vous avez voté pour qui, vous, lors des élections présidentielles ?
Si pour le président.
François Hollande. Qu'est-ce que vous attendiez, vous, de François Hollande ?
Ah, moi, j'attendais rien. Il peut rien faire, de toute façon. Pour moi, c'est... Il n'est pas là, le problème.
Quel est le problème ? Pourquoi il peut rien faire ?
Il peut rien faire. Et des sociétés comme nous, des grosses sociétés, je pense que le pouvoir ne peut rien faire depuis longtemps.
Si François Hollande avait le courage et la volonté politique, le courage politique de faire passer la loi contre les licenciements boursiers, déjà... Mais de donner des nouveaux droits aux salariés dans les entreprises, chose qu'ils ont promis pendant la campagne quand même. Troisième chose qu'ils ont aussi promis pendant la campagne, c'est la loi d'amnistie des syndicalistes. D'accord ? Pour que les syndicalistes puissent remplir leur rôle de délégués syndicaux correctement. Si déjà ils prenaient ces trois mesures, qu'ils les faisaient voter, je peux te garantir que déjà les patrons auraient un peu plus peur de faire des plans comme les plans actuellement qui sont mis en place par Sanofi.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce qu'il vient de dire sur notamment les licenciements boursiers, peut-être de faire appliquer une loi contre les licenciements boursiers ?
Qu'est-ce qu'il attend ?
Pour le faire.
Oui. Qu'il le fasse, on verra.
Tout ce qui est front de gauche, gauche, droite, je ne comprends pas que tout le monde ne soit pas d'accord. Quand on fait des milliards de bénéfices, comment peut-on faire un plan économique et social ? Je ne comprends pas pourquoi tout le monde n'est pas ensemble contre cette finance.
Ensemble contre la finance et pour la loi contre les licenciements boursiers. C'était le ton des Sanofi hier et le combat continue. Nous, on va retrouver Eric Hobsbawm, mais auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. De là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Alors, je passais devant le kiosque à journaux en bas de chez moi et je viens de tomber en arrêt là-devant. Là. Donc, j'adresse un message à tous ceux qui, comme moi, hein, apprécient les couvertures provocantes et les caricatures Charlie Hebdo, mais qui pensent qu'on peut aller plus loin, que Charlie s'autocensure un peu depuis qu'ils ont reçu les menaces. Donc, je conseille la couverture de l'Express de cette semaine. Je l'ai devant les yeux, là, en vitrine. Donc là, on est dans la caricature sans limite, sans concession. Non, à l'Express, c'est des rebelles, hein, ils ont peur de rien. Donc alors, le gros titre, c'est « Impôt, comment il va vous assommer ?» Dessous, tout sur le choc fiscal, comment y échapper, quand je vous dis que c'est des rebelles. Et un scoop sur ces riches qui quittent la France, le véritable fléau du pays.
Bonjour à tous, bonjour à tous les AMG. Je vous appelle du Pas-de-Calais pour vous rappeler que c'est la réunion du repère de là-bas, si j'y suis, à Monchy-Breton, entre Saint-Paul-sur-Ternoise et Arras, ce jeudi 4 à partir de 18h30. Nous parlerons de beaucoup de choses.
Oui, bonjour. Le repère à Nevers, c'est ce jeudi 4 octobre à 20h au bar Les Copains d'abord. Et le surlendemain, c'est-à-dire le samedi 6 octobre à 18h au parc Roger Saint-Gros, il y aura la chorale au clair de la rue. C'est gratuit. Les tickets boissons sont en pré-vente au bar Les Copains d'abord. Et venez nombreux aux deux événements. Au revoir.
Le journal Le Monde a publié mardi une tribune de plus de 100 économistes prenant position contre le traité européen. Problème, cette tribune a été amputée de deux passages. L'intégralité du texte sur l'humanité.fr daté du 3 octobre. Régis, de Nîmes.
Le candidat François Hollande s'était engagé à renégocier le traité pour la stabilité, la coordination et la gouvernance de la zone euro. Devenu président de la République, il propose aujourd'hui la ratification par le Parlement d'un texte quasiment identique. Nous vous proposons de venir en débattre avec Anne-Marie Allary, membre du collectif pour un audit citoyen de la dette publique, lors du prochain repère d'Aix-en-Provence qui se déroulera ce jeudi 4 octobre à 19h30 au restaurant Les Cousins, 40 avenue Robert Schuman. Bonne journée à tous.
Il faut répéter l'ancienne phrase de Rosa Luxemburg, qui avait été avant, même la phrase de Marx, ou socialisme ou barbarie. Mais le socialisme n'existe pas encore, la barbarie, si, ça existe.
Salut, c'est Daniel Mermès, la base que j'y suis avec Eric Hobsbawm. Eric Hobsbawm, un franc-tireur.
Flight number 2, arriving from New York.
La fin de l'histoire n'a pas eu lieu avec la chute du mur de Berlin, bien que dont on n'est pas encore en état de mesurer, de faire le bilan, bien un bilan ambigu. Ni un bilan positif, il y en a des côtés positifs, il y en a des côtés négatifs, mais on ne peut pas. Mais, bien que l'histoire n'a pas fini à ce moment-là, elle finit jamais, ce qui a pris fin au courant de la deuxième moitié de ce siècle, c'est l'époque historique et le mode de vie de l'humanité qui a duré quelque 10 à 12 000 ans. Du néolithique jusqu'aux décennies qui suivit la Deuxième Guerre mondiale. C'est une époque, c'est cette époque millénaire qui, au courant d'une seule génération, est morte. Comme j'ai écrit dans mon livre, la phrase, j'exagère, mais très peu, sur la majeure partie du globe, les changements furent à la fois soudains et sismiques. Pour 80% de l'humanité, le Moyen-Âge s'arrêta subitement dans les années 1950. On n'a qu'à penser qu'à ce changement le plus visible, je vais parler de fin de la paysannerie, c'est-à-dire du mode d'existence de la grande majorité de l'humanité pendant ces dizaines et de milliers d'années où le genre humain, dans sa grosse majorité, a vécu de la terre, des bétails et de la pêche. C'est ce monde qui a passé à jamais. Il n'y a pas de retour à ce monde. Et nous avons vécu cette tournant, ce virage irréparable de l'histoire. Expliquer ce tournant lourd de conséquences imprévisibles sera une tâche pour les historiens des siècles à venir. Car cela, j'ai tenté de le souligner dans mon livre, ne détruit pas simplement les sociétés traditionnelles et arriérées. Cela est aussi en train de bouleverser le modus operandi du capitalisme même. Plus que les défis communistes temporaires, notre siècle aura démontré que le plus dangereux pour le système capitaliste, c'est sa propre dynamique incontrôlable et imprévisible. Les historiens du XXIe siècle seront plus préoccupés par ce problème que par les guerres, les tyrannies et les combats d'idéologies en concurrence qui ont joué un rôle si grand dans la vie de ceux qui ont vécu le siècle extraordinaire qui arrive à sa fin chronologique. Siècle des sacrifices humains inouïs, de progrès stupéfiants, ère des extrêmes que j'ai fait mon mieux à comprendre. Je vous remercie.
Eric Hobsbawm, le 2 novembre 1999, à la Sorbonne, à l'occasion de la publication de L'Âge des Extrêmes, son livre édité par les éditions Complexes et Le Monde Diplomatique. Qu'est-ce que Le Monde Diplomatique venait faire là-dedans? Eh bien, on l'a évoqué hier, le destin très particulier de ce livre, qui à cette époque, en 1999, était déjà connu dans le monde entier, puisque il avait été traduit dans une quarantaine de langues, dont la Lettonie, la Moldavie, l'Islande, sauf en France. En France, il y avait un barrage, il y avait un blocage chez les grands éditeurs, Gallimard, Fayard, etc., sous la pression des prestigieux historiens français qui considéraient que Eric Hobsbawm, ayant fait partie du Parti communiste anglais, étant marxiste, ne devait pas être traduit en français. C'est à peu près ce qui s'est passé. Je caricature à peine. Donc, Le Monde Diplomatique s'en était mêlé. Le livre a été traduit, publié, donc, cette fin 99, et ça a donné l'occasion d'une rencontre formidable à la Sorbonne. On a entendu hier Marc Ferro, historien, de rendre hommage au travail de Eric Hobsbawm, tout en le critiquant. Donc aujourd'hui, on retrouve Eric Hobsbawm à cette époque, en 1999, lorsque nous l'avions rencontré. Étonnant constat, qu'est-ce qui caractérise le XXe siècle, qu'il appelle l'âge des extrêmes? Eh bien, je ne sais pas à quoi vous pensez si on dit XXe siècle. Hobsbawm, lui, met en avant cet effacement irréversible, dit-il, du monde paysan, à tout jamais, évanouissement à tout jamais du monde paysan multiséculaire, et il nous met en garde sur ce capitalisme imprévisible, aveugle, hors de toute morale, de toute signification, sauf évidemment la cupidité. Ce siècle extraordinaire, dit-il, il en avait été le témoin, lui qui était né en 1917 et mort donc lundi dernier à l'âge de 95 ans, observateur engagé, parfois protagoniste, s'intéressant à beaucoup de domaines de la vie, ou du moins historien s'intéressant à beaucoup de domaines de la vie, mêlant sa propre vie, se prenant aussi comme objet lui-même, mêlant son expérience, ses expériences, parfois même son ressenti dans son travail d'historien, et puis aussi amateur de jazz. Il a énormément écrit sur le jazz. Je vous souhaite de lire ces textes qui sont éblouissants sur, sur ce domaine. Après qu'il ait, cet auditeur avait raison tout à l'heure, commencé par se pencher sur les bandits et les primitifs de la révolte. Vous avez compris, on va passer une heure avec un homme remarquable.
Boys and girls, London calling. Now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. London calling. See, we ain't got no swing except for the rain and the crunch of things. The ice age is coming. The sun's zooming in. Meltdown expected. The wheat is going thin. Engines stop running, but I have no fear, 'cause London is drowning. I live by the river to the imitation zone. Forget it, brother, you can go in alone. London calling, see, we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in. Engines stop running, the wheat is going thick. A nuclear error, but I have no fear, 'cause London is drowning.
Parlons de votre livre lui-même, que vous divisez alors en trois périodes, une période catastrophique, un âge d'or, et puis une débâcle. Hein. Ce siècle-là, qu'est-ce qu'il y a de particulier, Éric Hobsbawm?
Ce siècle-là, ce qui est particulier, c'est précisément ce que j'ai cherché à exprimer par le titre, l'âge des extrêmes. C'est l'âge de paradoxe, c'est-à-dire c'est le siècle le plus cruel qui a tué plus d'hommes, c'est le plus tragique de tout le temps, mais en même temps, qui a fait des progrès absolument sans précédent, inoubliables. Voyons, à la fin d'un siècle, où il y a peut-être 200 millions d'humains qui ont été tués, sans compter les affamés, les expulsés et le reste, en vie, il y a tout de même trois fois plus d'humains qui vivent sur le monde, et dans la majorité des pays, qui vivent mieux, qui ont des meilleures chances, qui vivent plus longtemps, qui sont même plus grands, n'est-ce pas? Oui. Comment comprendre ça? C'est précisément l'effort de le comprendre que je... Mais la caractéristique, c'est plutôt qu'il n'y a pas... Ce n'est pas un siècle homogène, c'est un siècle contradictoire. Et extrême dans ses tragédies, et extrême même dans ses extraordinaires réussites. Je connais aucun siècle qui a vu une transformation si rapide, si profonde, si universelle dans l'économie, dans la société, peut-être moins politique, dans la culture, dans la technologie, dans le savoir. Et c'est ça, au fond, c'est absolument unique dans le monde, il me semble.
Et c'est ça, c'est tout ça que vous regardez à travers ce livre, hein. Vous regardez ce siècle à travers tous ces éléments-là. Ce n'est pas seulement l'histoire politique du XXe siècle que vous racontez, c'est aussi bien la culture. Parfois, vous mêlez vos propres souvenirs, vous analysez tout. Il y a un passage, par exemple, sur la radio. Je suis un homme de radio, que je trouve particulièrement perspicace sur ce qu'est la radio, ce qu'a été la radio.
Vous savez, j'ai été inspiré en grande partie par cette ambition un peu folle qu'avaient les grands historiens français. d'écrire l'histoire totale, n'est-ce pas ? C'est-à-dire des synthèses. C'est, enfin, mon ami et mon maître Baudel qui a, dans un certain sens, mon modèle. Mais je dois dire aussi que j'ai toujours été, dès le début, un peu hanté par ce grand problème. Nous vivons dans un pays. Comment les différentes dimensions, les différents aspects de la vie dans ce pays, comment ils sont liés les uns à l'autre ? Qu'est-ce qui explique que, disons, l'époque qui a vu les lasers et la biogénétique est aussi l'époque du rock, non ? Et de la guerre froide. Comment lier les choses ? Alors, c'est là, j'ai la passion de la synthèse. Et comme ça, j'ai essayé précisément de voir un peu tout. Et je suis aussi été inspiré un peu parce que c'est Brodel aussi qui me disait, l'historien, il doit apprendre tout le temps, il n'est jamais en vacances. Alors, donc, les yeux ouverts, il me disait, chaque fois que je monte dans un train, j'apprends quelque chose. Oui ? Et il l'a prouvé, puisque c'est justement sa curiosité sur tout, n'est-ce pas, qui en a fait. Moi, j'espère que j'ai aussi montré la curiosité universelle.
C'est ce dont votre livre fourmille, quoi, un appétit, une jubilation permanente.
Et mon Dieu, parce que il y a tant de choses intéressantes, voilà.
Je voudrais qu'on vienne à, peut-être à la raison qui a retardé la traduction de votre livre. En France, vous savez bien, vous nous connaissez, vous savez bien qu'à travers la publication du livre de François Furet sur le passé d'une illusion, ou le livre noir du communisme, c'est pas la même chose, bien évidemment, l'opinion aurait tendance à considérer qu'entre les deux grands totalitarismes de ce siècle, le nazisme et le communisme totalitaire, c'est la même chose, tout se vaut, et voilà, ce serait ça la barbarie de ce XXe siècle, ces deux choses semblables. Et vous n'êtes pas d'accord là-dessus, vous faites une différence entre ces deux phénomènes. Éric Hobsbawm.
Eh bien, il me semble que d'abord, ils sont différents dans leur origine. Par exemple, le communisme se situe dans la tradition des grandes révolutions émancipatrices à partir de l'anglaise qui avait inspiré l'américaine, de la française, des socialismes, des mouvements, etc. Et qui ont été universalistes, qui ont envisager l'émancipation de tous les hommes, tandis que le fascisme se situe dans la tradition de la droite qui, au fond, a été une réaction précisément contre, d'abord contre les Lumières universalistes en général et contre la Révolution française et tous ses séquelles en particulier. Très bien. Et ensuite, il me semble aussi que le communisme et la Russie ont joué un rôle mondial dans ce siècle. Tandis que les fascismes n'ont joué qu'un rôle restreint. C'est un phénomène historiquement limité à l'Europe. Pratiquement, ça n'a pas existé, ni...
Le Japon ?
Le Japon, à mon avis, n'a pas été fasciste. Si ça a des parallélismes, c'était avec certains types de monarchie absolue, du type féodal. Mais c'était pas fasciste, à mon avis. Or, et encore plus, le fascisme, comme type de régime spécifique, n'aurait pas eu une grande importance si, par hasard, l'Allemagne ne s'avait convertie à une version extrême du racisme. Parce que si le fascisme aurait resté un phénomène de l'Italie ou de quelques autres petits pays, personne l'aurait traité comme un phénomène global, universel, etc. C'était la conversion d'un grand pays, d'une grande puissance, surtout militaire, la plus grande puissance militaire de la première moitié de ce siècle, n'est-ce pas, à une idéologie meurtrière et, en fin de compte, suicidaire, oui, qui a transformé le fascisme pour un temps, mais pour un temps assez restreint, en facteur de la politique internationale, facteur central. Mais voilà, le communisme a duré tout le XXe siècle et on avait eu des... et continue dans un certain sens, n'est-ce pas, puisqu'il y a toujours au tiers-monde, en Amérique latine, il y a même des marxistes purs et durs de l'ancien type, tandis que des fascistes, le fascisme, il n'en reste pas grand-chose. Voilà des différences. Ce qui est vrai, c'est que dans le contexte très différent, tous les deux se sont développés comme dictature autoritaire. Le nazisme d'un coup, le stalinisme, c'était des dictatures absolument, enfin, buveurs de sang, hein, n'est-ce pas ? Bien que il faut toujours faire une différence entre les cruautés et les terreurs de Staline, qui n'a jamais été génocidaire dans le sens de l'Allemagne. C'est pour ça que, d'ailleurs, à mon avis, finalement, bien que la majorité des régimes européens aux années 30 avaient plutôt sympathie pour les pays fascistes dans leur lutte contre le communisme, en fin de compte, il n'y a pas eu alliance entre les régimes capitalistes, conservateurs et les fascistes. Finalement, l'alliance s'est faite entre les capitalistes et le communisme contre quelque chose qui le menaçait tous les deux. Et finalement, c'est cette alliance qui a réussi à mettre fin à cette aberration qu'était le nazisme génocidaire. Pas, malheureusement, le génocide qui continue dans d'autres formes.
Auch mit bereits regulären Soldaten geschossen.
Devant Stalingrad, les batteries allemandes ouvrent le feu dans le but d'enrayer une violente attaque soviétique. Dans ce quartier de Stalingrad, la bataille s'est tue. Et voici des vues de la ville morte sur laquelle un ouragan de fer et de feu s'est abattu durant plusieurs mois. Cette grande usine de tracteurs avait été transformée par les soviets en une usine de chars.
Revenons sur votre engagement. Vous dites aujourd'hui, je suis de gauche. Qu'est-ce que ça veut dire, être de gauche, aujourd'hui, pour vous ? Peut-être pas en tant qu'historien, mais en tant qu'intellectuel, en tant que citoyen, tout simplement.
Écoutez, j'ai essayé une fois d'expliquer ça dans une conférence que j'ai faite aux étudiants de l'Université de l'Europe centrale, après le mur et tout ça. Je leur ai dit, je parle à vous et vous, vous êtes une élite. Le fait que vous êtes assis à une université subventionnée par un bienfaiteur, M. Soros, international, bon, ça... vous aurez la vie sera importante, vous réussirez. Mais voilà, le monde n'est pas fait pour vous. C'est comme un professeur me disait quand je commençais à enseigner, c'est pas les étudiants comme vous qui sont les importants. Vous vous débrouillerez. C'est les gens ordinaires, les gens normaux, les gens médiocres, les gens que personne ne connaît. Eh bien, c'est ça, la gauche, c'est-à-dire le destin du monde. Il s'agit de créer un monde pour le gens ordinaire, tout le monde. Nous, les gens qui réussissent, les gens qui sont riches, les gens qui sont brillants, les gens qui ont toutes ces sortes de choses, il faut créer un monde qui laisse un peu d'espace pour nous aussi, n'est-ce pas ? Qui nous tolère, qui nous donne la chance de faire ce que nous, écrire des bouquins, réussir. Mais ce n'est pas de nous que la politique s'agit. C'est un peu ça, la gauche, pour moi.
C'est un humanisme. Vous êtes en train de me décrire un humanisme.
Si vous voulez appeler ça humanisme, je ne bagarre pas avec vous sur le vocabulaire.
Je voudrais qu'on parle aussi du marxisme. Vous vous dites fidèle à Marx. Est-ce que c'est une bonne caisse à outils pour penser notre époque ?
Ben évidemment, dans certains sens, c'est utile, parce que si vous lisez le Manifeste communiste, quand il a eu précisément le cent-cinquantenaire de ce texte éblouissant, tout le monde a découvert que ce qu'il avait décrit, à ce moment-là, c'était le monde dans lequel nous vivons. Le monde globalisé, le monde d'un capitalisme qui, à ce moment-là, allait, mais qui continue à transformer, bouleverser, à créer, en effet, ce monde dans lequel nous vivons. Alors, un penseur qui a réussi à une certaine prophétie de 150 ans, il faut le prendre au sérieux. Évidemment, sur d'autres choses, il s'est trompé. Et il faut bien admettre quand il s'est trompé, n'est-ce pas ? Donc, je ne dis pas qu'il faut choisir, mais Marx reste une présence intellectuelle. D'abord, c'est un des plus grands penseurs du 19e siècle. Ensuite, c'est un type qui a tout de même, avec un œil génial, noté quelque chose sur les tendances de la vie. Et finalement, en tant qu'historien, surtout historien des deux ou trois derniers siècles, c'est précisément la méthode de Marx qui m'a été utile, même que je dirais qui m'a inspiré. Et si ce bouquin, par exemple, réussit, si toute la série de ces livres que j'ai écrits sur l'histoire depuis la Révolution française, la Révolution industrielle en Angleterre, si ça a réussi à faire comprendre les gens, c'est un peu parce que j'ai suivi cette méthode. Je ne crois pas que tout ce que Marx a dit est correct, et même je dirais qu'il y a certaines choses où il s'est trompé, au fond. Où il a voulu arriver à des conclusions qui n'étaient pas justifiées par la méthode. Mais, somme toute, même si une grande partie de Marx était à balancer, je reste un peu fidèle à la mémoire d'un grand maître qui m'a formé dans un certain sens. Vous croyez, la fidélité au maître à penser est quelque chose que j'apprécie. Je crois à ce que les Romains appelaient, les Latins appelaient la pietas intellectuelle.
C'est-à-dire la reconnaissance, quoi, ça veut dire ?
La reconnaissance, le respect et la fidélité, et l'appréciation. Le remerciement, n'est-ce pas, à quelqu'un qui a aidé à former la vie et ce que je suis.
Le 4 novembre, à 4h du matin, les chars soviétiques entrent dans Budapest. Quartier par quartier, rue par rue, les Hongrois défendent leur ville.
Alain de Sédouy et André Teyex, au micro de la radio suisse.
1956.
Thank you.
derrière l'hôtel Duna, entre l'hôtel Duna et le Danube, voici les chars russes qui passent. Ils sont environ à une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Les chars passent doucement. Ils viennent s'arrêter. Au revoir.
Qui s'avance vers nous en ce moment, tourelle braquée vers l'hôtel Duna. Ils viennent tirer une rafale de mitrailleuse.
On essaye de voir en se mettant un peu au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux.
Un deuxième char le suit de près.
Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas qu'on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, je viens. Il tire à la mitraille, vous entendez les balles qui claquent contre le mur.
Un troisième char arrive.
Ah oui? Coup de camou.
Canon en direction de la...
Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent doucement. Quatrième char, et ils tirent. En quelle direction? Pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa tourelle, c'est vers nous. Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les 8 balles qui tapent. Sur l'hôtel, je suis navré, j'arrête le magnétophone.
Voilà, Alain de Sédoui et son collègue en 1956 à Budapest, des premiers reportages avec un Agra, avec ces magnétophones que nous utilisons toujours. Donc là, une prouesse technique en même temps qu'une barbarie. Ça ressemble tout à fait à ces extrêmes que Eric Hobsbawm analyse dans ce livre dont nous parlions, c'est en novembre 1999. On continue cet hommage au grand historien intellectuel disparu donc lundi dernier.
Je voudrais souligner tout de même que en ce qui concerne l'Union soviétique elle-même, j'ai essayé de l'exprimer dans mon livre et j'y tiens. C'est une expérience qui s'est voulue une alternative au capitalisme, mais qui ne l'a pas été. C'est surgi dans le contexte et en fonction de l'écroulement de la société bourgeoise du XIXe siècle. Sans cela, il n'aurait jamais venu au l'idée, même aux marxistes russes, où tout le monde s'attendait à une révolution, il ne leur a jamais venu l'idée de construire un socialisme en Russie, de faire la soi-disant révolution prolétaire dans ce pays-là. C'est mal parti, c'est mal arrivé, mais tout de même, ça a joué un rôle extraordinaire. J'ai essayé avec une énorme force, parce que personnel, il faut de la force subjective d'essayer de faire les comptes, non seulement avec sa vie, avec la vie qu'on a vécue, mais de penser et de repenser ce qu'on avait pensé, surtout les causes auxquelles on s'était engagé dans sa jeunesse, qui a été, qui continue à être une grande cause, celle de l'émancipation de l'humanité. Mais il faut avouer que la façon dans laquelle ça a été abordé à partir de la révolution russe, mal parti, mal arrivé, bien que la grande cause, celle de l'émancipation, surtout des pauvres, des gens en puissance, reste. La critique d'une société au fond injuste reste. Et ça trouvera d'autres façons de se frayer le chemin. Et je continue à croire dans la vision, non seulement de Marx, mais d'autres, que c'est une société qui finalement sera remplacée par une société à possibilité de reconnaître le social, de l'intérêt social plutôt que le chaos d'immobile, d'égoïsme personnel. Et plutôt plus tard, je crois que ça va arriver, si ça s'appelle socialisme ou non. Mais jusqu'à présent, je dois dire, bien que cet espoir n'est pas mort, il faut répéter l'ancienne phrase de Rosa Luxemburg, qui avait été avant, même la phrase de Marx, « Ou socialisme ou barbarie ». Mais le socialisme n'existe pas encore, la barbarie, si, ça existe.
Merci.
Eric Holzbaum, en 1999, à la Sorbonne, beaucoup de dommages sont rendus dans la presse à Holzbaum, qui disparaît, mais qui laisse une œuvre considérable et jubilante à lire. Hein. Il a beaucoup de style et c'est très très agréable de lire Holzbaum. Et quelqu'un dans un article, Claude Mazori, qui est un historien, rapproche Holzbaum de Rousseau en disant « Vivant ou mort, il ne cessera de les inquiéter ». Vous mêlez dans ce livre votre vie, enfin, vous ne vous mettez pas en avant, vous n'êtes pas devenu un personnage de roman. À quel moment de votre vie vous avez eu l'impression que votre histoire personnelle rencontrait l'histoire du siècle ?
Ben, pas mal de moments. Sûrement, à cet après-midi que j'évoque dans mon livre, n'est-ce pas, où je rentrais de l'école avec ma sœur, et j'ai vu dans les kiosques que Hitler était arrivé au pouvoir le 30 janvier 1933. On le savait. On savait que c'était un moment historique. Il y en a eu d'autres. Oui, j'ai eu une énorme chance. J'ai reçu une bourse de la municipalité de Londres pour perfectionner mon français à la fin du lycée. Et je suis arrivé ici, à Paris, au mois de juin 1936. Alors, je suis arrivé au dernier moment des grandes grèves du Front populaire. Et puis, parce que à ce moment-là, le parent qui s'occupait de moi avait affaire à Paris, il était dans le cinéma, etc., j'avais la chance de vivre le 14 juillet 1936 sur un camion d'information du Parti Socialiste. Alors, on circulait un peu partout et on voyait, n'est-ce pas, ce que c'était la mobilisation du peuple à Paris. Et tout de même, c'était encore un moment, n'est-ce pas, où on se sentait, pour ainsi dire, sur la même longueur d'onde. Oui, et c'est un troisième épisode. Oui, c'était peut-être à Cuba. Quand j'avais fini à enseigner aux États-Unis, c'était en 1960, je me suis dit, allons donc faire un saut à Cuba. Et j'y suis arrivé, et c'était le moment où la révolution était toujours jeune. Et j'ai participé, je l'évoque aussi un peu dans le livre, à une des énormes discours fleuves de Fidel Castro. Hein? Et nous en étions tous là, hein, en écoutant, tout le temps. Et là aussi, dans ces rues, n'est-ce pas, plein de belles filles en uniforme, n'est-ce pas? Parce que c'était une chose extraordinaire, n'est-ce pas, que dans un pays comme Cuba, où les filles étaient éblouissantes et les cigares étaient extraordinaires, les cafés étaient merveilleux, il y a eu la révolution même, n'est-ce pas? Et alors on y était. Et encore une fois, on sentait un peu, pour ainsi dire, la vibration de l'histoire. D'ailleurs, à un certain moment, j'ai dû faire les traductions pour Che Guevara.
Ça veut dire que vous avez rencontré le Che ?
Oui, oui.
Comment vous l'avez trouvé ?
Je suis bel homme, comme tout le monde, n'est-ce pas ? Oui, oui.
Non, mais ce qu'il disait,
Qu'est-ce qu'il disait ? Rien en particulier, n'est-ce pas ? Qu'est-ce qu'on dit aux délégations d'étrangers qui arrivent dans un pays, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas les gens de politique, les hommes d'État qui disent des choses intéressantes. Ils disent ce qu'ils croient devoir dire, n'est-ce pas ? Il n'y a qu'une fois qu'un homme d'État m'a dit des choses vraiment intéressantes. C'était un président de Bolivie, dans le palais présidentiel, à la fenêtre. Il m'a indiqué la lanterne devant et disait « Voilà, c'est ici qu'on a pendu mon prédécesseur.
» Oui. C'était un type drôle, non ? C'était drôle ?
C'était pas drôle, parce que mais c'était tout de même, n'est-ce pas, on a eu l'impression qu'il s'agissait d'un homme qui au moins savait que c'était pas un jeu d'être le président de Bolivie. Mais voilà, vous dites l'espoir. L'homme est un être qui espère, alors donc on a toujours l'espoir, non ?
Non, non, mais vous n'allez pas vous en sortir comme ça.
Moi ?
C'est trop facile, cette réponse-là. Qu'est-ce que... en vous écoutant, je sais ce qui va se passer, en vous écoutant, les auditeurs vont dire « mais il a une chance folle, c'est un homme formidablement gâté ». On va vous donner l'impression d'avoir vécu une époque formidable, de vivre... toujours une...
Oh, j'ai eu de la chance.
Oui, mais qu'est-ce que vous pouvez dire aux jeunes qui arrivent maintenant pour...
C'est ce que je peux dire aux jeunes, c'est ce qu'il ne faut jamais accepter le capitalisme. C'est une société injuste. Et tant que ça existe, il faut lutter contre et chercher une société meilleure. Peut-être ça ne sera pas celle dont j'ai rêvé et pour laquelle j'ai milité dans mon passé, parce que ça, maintenant, c'est fini. Hein? C'était, pour ainsi dire, un départ mauvais et une mauvaise arrivée. Mais tout de même, la cause reste, et c'est surtout les jeunes qui peuvent apprécier la nécessité, pour ainsi dire, de lutter pour un monde meilleur.
Exit Train, Duke Ellington, pour lequel Eric Holmboom nourrissait une très grande admiration et sur lequel il a longuement écrit, comme sur Count Basie, comme sur Billy Holiday, comme sur Sidney Bechet, sur beaucoup de grands jazzmen. Et puis vous entendez aussi les coups de marteau sur le mur de Berlin en 1989. Et donc voilà, c'est le moment où finit ce siècle des extrêmes. Hommage donc à Eric Hobsbawm. Il reste tous ses livres, Eric Hobsbawm. Un franc-tireur. Franc-tireur, c'est le titre de son autobiographie. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter, la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org. Et puis, on se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission. À la technique aujourd'hui, Cédric Lalanne et Ronan Mahé. Cette émission a été réalisée par Lucie Acoun, Antoine Chao, avec Chloé Sanchez et Pierre-Yves Bulto. Quant à Solène Cordier, elle attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37 37. Et puis une chose encore, ça s'arrange un petit peu pour les messages sur le répondeur. Je vous avais demandé d'essayer de faire un peu plus court, de façon à ce qu'on puisse en passer un peu plus, surtout pour ce qui concerne les repères de la base où j'y suis. Il y a plus de 150 repères. maintenant, et vous êtes nombreux à vouloir passer le message. Essayez de faire le plus court possible. Demain, on se retrouvera avec l'équipe du Monde Diplomatique, comme chaque mois, avec le Diplo Réclame.
Si je te dis qu'à la Matmut, l'addition vient en soustraction.
Ah oui, et comment ?
Sur mon assurance auto, je peux cumuler les réductions.
Si tu les ajoutes les unes aux autres, elles viennent en déduction de ton addition.
C'est ça. Avec la Matmut, plus j'ai de réductions et moins je paye.
Offre tarifaire soumise à conditions, disponible en agence ou sur matmut.fr.
C'est sympa de revoir les anciens du lycée. T'as vu Marc ?
Ouais, il a monté sa boîte. Mais comme tout le monde, il cherche à faire des économies.
Qui m'appelle ? Je suis conseiller EDF Entreprise. J'aide les entrepreneurs à optimiser leur budget énergie pour faire des économies. On choisira ensemble des solutions énergétiques efficaces pour améliorer la performance de son entreprise.
Entrepreneur, rendez-vous sur edfentreprise.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la.
France Inter présente Dionysos.
Je vis comme une toupie de chair et de sang. Mon équilibre ne s'est maintenu.
En tournée dans toute la France et à l'Olympia, à Paris les 9, 10 et 11 octobre. Retrouvez Dionysos dans le programme musical de France Inter et sur franceinter.fr. Dionysos en concert avec France Inter.
Ouais, je vous le disais, demain on retrouvera l'équipe du Monde Diplomatique, on parlera de compétitivité. Compétitivité, qu'est-ce que c'est que cette compétitivité ? On verra le mythe de la compétitivité. On parlera évidemment des États-Unis, c'est le moment. On parlera aussi de Jean-Jacques Rousseau, qui a été une référence et qui continue d'être une référence pour des gens totalement différents. Depuis de Pol Pot à Vichy, on s'est référé à Jean-Jacques Rousseau. Et puis on parlera aussi des Tziganes. Henriette Asseo, l'historienne des Tziganes, viendra nous dire à nouveau ce qu'elle essaye de dire depuis des années et des années, c'est que les Tziganes ne sont pas des nomades. Et ce sera destiné, évidemment, à éclairer les questions qui concernent aujourd'hui les Roms. Il est 16h et une poignée de secondes sur Inter. À demain, donc, 15h pour là-bas, si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut!
C'est par l'intermédiaire de l'ONU que la Syrie a présenté aujourd'hui ses excuses à la Turquie pour l'incident d'hier. 5 civils tués par des tirs de l'armée syrienne. Damas a promis que cela ne se reproduirait pas. Les Nations Unies ont joué leur rôle de médiateur, affirme Ankara. Ankara qui a répliqué hier et ce matin par des tirs et dont le Parlement a d'ailleurs donné son feu vert à une intervention militaire sur le sol syrien. Mais ce n'est pas une déclaration de guerre, ont fait savoir les autorités turques. Par ailleurs, toujours en Syrie, 21 soldats du régime de Bachar el-Assad ont été tués aujourd'hui dans la banlieue de Damas par un nouvel attentat suivi d'échanges de tirs. La Syrie accuse l'action de mercenaires armés et financés par des pays étrangers. Hier, le triple attentat d'Alep a été revendiqué par un groupe islamiste. L'Autorité européenne de sécurité des aliments demande aujourd'hui au chercheur français Gilles-Éric Séralini davantage d'informations sur son étude sur la toxicité des OGM. L'EFSA veut pouvoir rendre un avis sur le sujet d'ici la fin du mois. Sans ces éléments, affirme l'EFSA, il est peu probable que l'étude se révèle fiable, valide et de bonne qualité. La France maintiendra quasiment son niveau d'aide au développement l'an prochain. Elle y affectera 10% de sa taxe Tobin sur les transactions financières, affirme le ministre du Développement, Pascal Canfin. Hier, plusieurs grandes associations se sont indignées du projet de budget 2013 qui prévoit une baisse des crédits d'aide au développement. Rendez-vous dans un an tout juste. Le tribunal correctionnel de Paris a fixé au 4 octobre 2013 le procès de libération. Le quotidien est poursuivi par Bernard Arnault pour sa une du 10 septembre dernier. À propos de la demande de naturalisation en Belgique du patron d'LVMH, Libé avait titré « Casse-toi riche con ». Autre procès plus proche, cette fois celui de l'affaire des prothèses mammaires frauduleuses PIP. Il aura lieu à Marseille du 17 avril au 14 mai prochain. C'est ce qu'affirment les participants à la réunion du parquet de Marseille. Il avait convoqué les quelques 200 avocats de victimes pour parler des modalités de l'organisation de l'audience. Ce procès devrait être le plus grand jamais organisé en France puisque les victimes se comptent par milliers. Toujours à Marseille, l'affaire Brandao s'arrête là. L'avocat de la jeune femme qui avait porté plainte pour viol contre l'ancien attaquant brésilien de Marseille renonce aujourd'hui à faire appel de l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié le joueur qui évolue cette saison à Saint-Étienne en Ligue 1. Le ministère français des Affaires étrangères confirme cet après-midi la découverte du corps de Rémi Lécluse. L'alpiniste français faisait partie des deux guides de haute montagne français disparus lors de l'avalanche sur un camp de base du mont Manalou au Népal. Son corps a été retrouvé par une équipe de Sherpa à 600 mètres du camp et il est en cours de rapatriement en France. Henri-Georges Clouzot n'était pas seulement le réalisateur du Quai des Orfèvres, des Diaboliques ou encore du Salaire de la Peur, c'était aussi un amateur d'art. La maison Christie's annonce aujourd'hui que sa collection sera mise en vente aux enchères le 1er décembre prochain à Paris, montant estimé entre 3 et 5 millions d'euros. Clouzot fut un ami de Braque, Miro ou encore Picasso. Le produit de la vente ira au Secours catholique, conformément aux volontés de la seconde épouse d'Henri-Georges Clouzot, Inès, morte en février 2011. Vous écoutez France Inter, 16h03, et maintenant, tout de suite, sans publicité, c'est à vous.
Oh, ben déjà, voilà.
Frédéric Lodéon.
Merci Laetitia Gaillet. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Maurice Ravel, on le célèbre à Montfort-l'Amaury. C'est un joli endroit, non loin de Paris. Et on sait qu'en 1920, le compositeur, fatigué par l'agitation de la vie parisienne, exténué par des voyages glorieux mais incessants, alors qu'il avait 45 ans, il s'est réfugié dans une petite maison, le Belvédère, on l'appelle. Et c'est en bordure de la forêt de Rambouillet, on peut dire, clairement. Et c'était déjà à l'époque comme ça. Mais non, il y a plus de maisons autour maintenant, bien sûr. C'est sur les hauteurs de ce village au passé prestigieux, donc Montfort-l'Amaury, et il va y avoir des journées Ravel sous la présidence d'Annick de Bestégui qui sont données pour perpétuer la mémoire et l'esprit du fameux compositeur français. Alors, on peut visiter la maison de Maurice Ravel, remplie de petits objets. Il adorait les miniatures, il adorait les petits objets qui bougent, qu'on peut remonter. C'est un modeste pavillon élevé sur un terre-plein qui domine la cité. Mais enfin, bon, il restait là pendant 15 ans, dans la tranquillité, il voyait quelquefois ses proches, des parents ou des artistes. Donc maintenant, le Belvédère est restauré et ouvert à la visite. Maurice Ravel sera honoré par beaucoup d'artistes. Ça commence, il faut me préciser les dates quand même, le 6 et le 7, deuxième week-end, le 13 et le 14. Donc le 6 et le 7, vous voyez, vendredi et samedi. Et pendant le deuxième week-end, il y aura un quatuor. C'est même pas des amis, ce sont des frères et sœurs. C'est très rare qu'il y ait un quatuor complètement homogène. Même le quatuor Hagen, célèbre ensemble viennois, n'a pas réussi là. Ils sont tous de la famille Girard. Je vous propose d'entendre ce quatuor Girard dans le final presto d'un quatuor en ré majeur de Haydn, opus 76. Thank you. Final presto d'un quatuor à cordes en ré majeur.